Jazz aux éclats sur RCN.
Alain Aubrège.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jazz aux éclats. Aujourd'hui à Jazz aux éclats, je suis en compagnie de Dominique Breda de l'émission Tempo Classique et de Johan Turpin, des baguettes à la baguette.
Eh oui, des manettes à la baguette.
Des manettes à la baguette.
On peut le dire comme on veut.
Je me trompe toujours.
Ouais. C'est
bon,
pas grave.
C'est pas très grave. Et puis nous avons le plaisir, nous allons pendant les 50 minutes qui suivent, nous entretenir avec le pianiste Paul Lai. Bonjour Paul Lai.
Bonjour à vous.
Et nous entretenir avec vous à l'occasion d'une part de la sortie d'un récent disque qui sur lequel nous allons un petit peu parler parce que il nous a fait bien parler ensemble.
Absolument.
Et puis de votre prochaine venue pour un concert à l'Arsenal de Metz le mercredi 10 juin prochain à 20h. Donc, Paul Lai, ce dernier disque, ce disque s'appelle Waves of Light, les vagues de lumière, c'est bien ça ?
Oui, c'est exact,
oui.
C'est ça.
Ouais. Des vagues de lumière, et c'est un disque qui a quand même un caractère un peu particulier, puisque vous êtes avec votre trio, piano, basse, batterie, et en compagnie, et c'est pas fréquent, c'est même plutôt rare pour des musiciens de jazz, si on en parlera tout à l'heure, vous êtes en compagnie d'un chœur.
C'est exact, le chœur, les éléments menés de main de maître par Joël Subiette.
Alors, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
Oui, il y a un côté presque du coup trio de chambre peut-être. C'est très intéressant, chambre avec chœur.
Oui.
Ouais.
Oui, chambre avec chœur, Dominique.
Ah oui, je souscris.
Tu souscris. Alors la question qu'on s'est posée probablement tous les trois, c'est comment vient cette idée un petit peu, je ne veux pas dire saugrenue, mais en tout cas originale.
Oui, en fait, je connais Joël Subiette depuis très longtemps, donc le chef du chœur Les Éléments. On est natif de la même ville, Orthez, dans le Béarn. Ouais. On a quelques années d'écart, mais on s'est suivi mutuellement dans les différents travaux et il est venu écouter plusieurs de mes concerts. Il a suivi ma discographie et puis j'ai suivi la sienne et conjointement. Et en fait, pendant le confinement de 2020, on s'est appelé et comme on avait possiblement plus de temps pour réfléchir à des... On a pu prendre le temps de réfléchir à des projets et on avait envie depuis longtemps de collaborer ensemble. Le thème de la lumière est venu très progressivement, mais en tout cas l'idée c'était de vraiment croiser nos deux univers, celui du jazz et celui de la musique vocale, qui est effectivement une alliance assez peu fréquente. Et moi j'avais déjà des sons, des idées en tête. Lui et Joël est quelqu'un de très curieux et adore les projets aussi singuliers. Et donc, et l'aventure a commencé comme ça, d'un désir commun de tout simplement croiser nos univers.
Oui. Eh bien, alors je propose que pour commencer, on va pouvoir en parler ensuite,
oui.
Qu'on écoute un premier extrait de votre album, par exemple la deuxième partie d'une de vos compositions, Ombres et Lumières.
Très bien.
Thank you.
Ombres et Lumières, le trio de Paul Lai avec le chœur Les Éléments, et vous êtes accompagné par le batteur Donald Contomanu et par le bassiste, le contrebassiste Clemens van der Ven. C'est bien ça?
Oui, Clemens van der Ven, exactement.
Oui. Et puis ce chœur, il y a combien de personnes dans ce chœur?
17 chanteurs et chanteuses, donc
17,
soprano,
17, oui.
Alto, ténor et basse. Donc 4 par voix et 5 pour les sopranos.
Oui.
Ce qui nous a encore frappé quand on écoute cet extrait-là, c'est déjà l'exceptionnelle qualité du chœur qu'on doit tout de même rappeler. On se demande du coup, une question comme ça, si ce chœur en particulier vous a inspiré ou vous a fait peut-être écrire ou arranger d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai écouté assidûment certains travaux de Joël et son chœur, notamment l'album Méditerranée Sacrée que j'aimais beaucoup. Mm-hmm. Il a travaillé aussi avec certains compositeurs comme Alexandros Marquez ou Moultaka.
Oui.
Et j'ai pu voir l'étendue du spectre, enfin de toutes les possibilités, même, j'allais dire presque même dire acrobatiques du chœur qui étaient possibles. J'ai vu qu'en fait, en gros, il y avait une grande étendue de possibles. Et surtout, j'étais frappé par leur extrême précision de justesse harmonique
rythmique.
Et en fait, on a avec Joël, on s'est fait des petites réunions de travail. On va dire, on s'est vu, disons, 2-3 fois avant que j'entame vraiment le processus d'écriture. On a écouté pas mal de choses différentes. Évidemment de musique déjà existante et il m'avait proposé quelques scores également. Et puis moi aussi évidemment de mon côté j'ai étudié certaines œuvres, voir un peu comment effectivement, plus précisément comment on écrit en général pour chœur. Et du coup progressivement j'ai commencé à écrire des petits, ce qu'on appelle des sketchs, enfin des amorces, des ébauches de pièces et donc notamment après voilà une semaine de travail j'ai commencé à proposer à Joël ces travaux là et il m'a évidemment heureusement il m'a rassuré sur la bonne voie, en tout cas que je faisais pas de non-sens dans l'écriture, bon, et puis il m'a donné effectivement quelques il m'a proposé des choses, suggéré certaines doublures, certaines choses, mais en fait c'est venu assez rapidement et ouais, de manière assez naturelle.
Donc si je comprends bien, c'était la première fois que vous écriviez pour voix du coup?
Ah oui, tout à fait. Alors dans mes albums précédents, la voix existe, mais plus voix, on va dire,
d'accord,
solo, bon, soliste. Comme,
c'est une prouesse en soi, parce que ça sonne très bien.
On y reviendra tout à l'heure.
Oui, mais effectivement, pour écrire pour 17, enfin en tout cas un chœur, vraiment c'était la première fois. Et j'ai, dans mon enfance, adolescence, mes parents, la chance qu'ils écoutent plein de musiques différentes, nombreux styles de musique, et j'ai pu être bercé par des cantates quand j'étais enfant, adolescent, donc j'avais quand même un son, j'avais ça dans les oreilles, mais après effectivement, comment le relier au jazz, il y a un album qui m'a profondément marqué il y a quelques années que j'ai découvert de Mary Lou Williams, la pianiste compositrice, et And the Black End, non comment c'est, The Black Christ of the Andes.
Oui.
Ça se rapproche. Enfin, en tout cas, ça a été une source d'inspiration pour moi.
Bah, c'est parfait parce que vous faites énormément plaisir à Alain. Du coup,
ça me fait très très plaisir de vous entendre dire ça parce que j'étais persuadé. Depuis que j'ai écouté votre disque, j'étais persuadé que c'était la première fois qu'on entendait ce genre d'association trio et chœur. Puis j'avais quand même une idée dans la tête. Je me disais, c'est pas vraiment. Et j'ai fini par repenser à Mary Lou Williams et je me proposais de vous faire entendre ceci.
Très bien.
In the eye, the devil looks a lot like you and I. Our old friend.
un court extrait, bien sûr, parce que le temps ne nous permet pas d'écouter intégralement, mais Black Christ of the Andes de Marie-Lou Williams. C'était en 1964.
Oui, exactement. Et si je ne dis pas de bêtises, oui, elle célébrait Saint-Martin de Porres, qui était le...
Voilà, exactement.
C'est un noir canonisé par l'Église catholique.
Voilà, exactement. Elle-même venait de se convertir.
C'est ça. Oui. Et donc, cette dimension spirituelle compte énormément pour moi dans la musique en général, mais d'autant plus dans cet album. Et donc, voilà, il y a un lien, en tout cas, entre ce que j'ai pu produire pour le chœur et le trio, donc dans Ways of Light, et donc cette figure qui est Marie-Lou Williams, c'est cet album en particulier.
Effectivement. Et puis, ben, c'est l'occasion de rappeler le souvenir de cette excellente pianiste.
Formidable pianiste, formidable compositrice. Et il ne faut pas oublier que Duke Ellington vaut une admiration sans borne pour Marie-Lou Williams. Et c'est un son exceptionnel. Je suis... vraiment un grand fan de Marie-Lou Williams, voilà.
Alors, on évoquait à l'instant votre travail avec des voix. Vous nous avez dit qu'effectivement, vous aviez déjà travaillé avec des voix solistes. Je propose qu'on vous écoute. Ça a été enregistré, c'est un de vos albums enregistrés en 2016, si j'ai bon souvenir. C'est Alcazar Memories,
oui,
avec la chanteuse Isabelle Serling.
C'est ça, exactement.
Voilà. Oui. Eh bien, allez, on écoute une de vos compositions qui est extraite de cet album en 2016, Under the Fires.
Thank you.
Hundred Fires en 2016 avec la chanteuse Isabelle Serling.
Jazz aux éclats sur RCN.
Eh bien, Dominique ?
Oui, bonjour Paul. Bonjour. Je suis pas un spécialiste du jazz, bah, puisque dans la maison je m'occupe de la musique classique. Alors je suis allé regarder un petit peu sur internet ce que vous faisiez, et je suis évidemment tombé sur des thèmes classiques que vous revisitez. Alors j'aimerais un petit peu avoir votre impression sur... On peut dire que ce sont des standards de jazz avant l'heure, ces thèmes classiques ?
Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est... Enfin, ce sur lequel que je me suis emparé, notamment sur un de mes albums en 2021, je pense, de Full Solo, donc qui était un album autour de Beethoven.
Oui.
L'idée, c'était effectivement de reprendre certaines de ces thèmes, certaines mélodies, plutôt à partir du répertoire pour piano, mais pas que. Mmh. Et en fait, c'était ça partait de commandes, notamment de la Folle Journée de Nantes.
D'accord.
Et l'idée, c'était de... J'avais carte blanche, et moi, ce que je souhaitais, c'était, en général, conserver littéralement la mélodie.
Oui.
Originale. Mais bien sûr, je vais ensuite changer les accords, changer le rythme, et surtout ouvrir des fenêtres pour l'improvisation, donc changer effectivement l'architecture de chaque pièce, mais tout en conservant une exigence à chaque fois dans la nouvelle architecture qui se déploie spontanément à chaque version différente. Ce qui relie peut-être avec les standards, c'est que j'aime bien partir de mélodies qui me touchent. Mmh. Et de voir comment je peux les faire évoluer le temps d'une version, effectivement.
D'accord. Alors, autre question, comment vous vous définissez par rapport à quelqu'un comme Jacques Loussier, par exemple, et son travail autour de Bach ?
Oui, alors, j'ai effectivement écouté Jacques Loussier. Mmh. Disons que ce qui était assez impressionnant, c'était son travail de réappropriation, de réagencement et d'arrangement avec son trio. Mmh. De ce que j'ai pu en tout cas étudier et entendre, c'est que c'était très très ficelé, très bien arrangé, mais j'ai l'impression que c'était quand même que la part laissée à l'improvisation était pas maximale, on va dire. Enfin, oui. Elle avait sa part, mais c'était surtout quand même très très arrangé, très bien ficelé. Et en ce sens, vraiment bravo pour... en tout cas, il a produit des choses vraiment magnifiques. C'est vrai que nous, la manière dont on les réinvestit, ces pièces, parce qu'on fait effectivement trio aussi un hommage à Bach, une plus grande part, je pense, est laissée à l'improvisation. Et c'est surtout ça, moi, qui me stimule, et j'adore cette, si je puis dire, être sur le fil, un peu cette mise en danger. Je pense que Jacques Loussier... évidemment, est pianiste classique à la base,
oui.
A ouvert des choses pour l'improvisation, mais resté très vraiment axé dans l'arrangement. Et disons que je pense que nous, notre voie, c'est plutôt d'improviser quand même pas mal au sein de chaque pièce.
Alors, vous l'avez fait sur Beethoven, vous le disiez. Est-ce que vous l'avez fait aussi sur des choses plus récentes, des Debussy, des Fauré, des choses comme ça ?
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Il y a un très beau projet qui va voir le jour avec l'orchestre, donc l'ONPL, l'Orchestre des Pays de la Loire, l'année prochaine en février. Donc, on a déjà collaboré l'année dernière et là, je recollabore avec eux. Je vais écrire une pièce pour eux et je serai au piano. Et puis... on va créer un concert un peu particulier où ce sera principalement un dialogue entre le piano et l'orchestre. Et donc moi, je vais improviser à partir de pièces plutôt du répertoire français justement qui vont jouer. Mm-hmm. Et il y a une sorte de ping-pong de permanent, quoi, un dialogue. Et donc il y aura du Debussy, il y aura du Satie, il y aura du Ravel, entre autres. Voilà.
D'accord. Alors, on est là dans des périodes très riches harmoniquement pour le classique, en tout cas. Est-ce que ça vous intéresserait de partir vers le baroque français, par exemple ?
Oui, j'adore Rameau, par exemple.
Oui.
Ça pourrait être effectivement un autre projet ou un nouveau champ d'études, effectivement, ou même peut-être même des compositeurs même de la Renaissance. J'adore aussi ce qui est très baroque aussi. En fait, j'adore explorer et toute bonne matière musicale et grande source d'inspiration. Donc, j'y vais pas à pas.
D'accord, très bien. Alors, j'ai une dernière petite question. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre complètement, mais j'aimerais savoir comment travaille un pianiste de jazz au quotidien. Vous avez peut-être vos secrets. Si, il n'y a pas de secret.
Non, justement, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de secrets. Enfin, en tout cas, j'ai aucun problème pour vous livrer.
Qu'est-ce que vous dites à vos élèves du conservatoire, par exemple?
Soit ça, ou en tout cas, disons que moi, ma routine quotidienne quand je suis à la maison, quand je ne suis pas en tournée, quand je ne suis pas en concert, c'est en général, les matins, je travaille. J'éteins le téléphone et pendant 4 heures, 3 ou 4 heures, je suis vraiment sur mon instrument. Je travaille de temps en temps des pièces classiques, mais surtout je travaille, même si je joue pas forcément toujours sans concert, mais beaucoup de standards de jazz. J'étudie les grands maîtres toujours. Là en ce moment j'étudie Artatum. J'écris beaucoup aussi parce que j'ai des commandes. J'écris de la musique. Ce qui est intéressant quand on est pianiste de jazz, c'est qu'on a plein de ressources, plein de choses sur lesquelles travailler, mais on est obligé de choisir parce qu'on peut pas tout faire.
Ouais.
Et enfin, tout travailler, et surtout après, il y a l'étape essentielle de laisser infuser ça en nous, digérer ça, et ensuite que tout ce matériau qu'on travaille rejaillissent spontanément sur scène, et on sait pas trop comment c'est fichu psychiquement chez nous. Mais c'est ça qui est génial, c'est que on travaille beaucoup, enfin je travaille beaucoup, j'apprends, j'étudie, et pour ensuite laisser faire.
Voilà, vous nourrissez et puis ça ressort.
Oui. Voilà.
Bien.
Et avec nos étudiants au conservatoire, on a quand même beaucoup sur le répertoire, et puis on les pousse évidemment à se singulariser progressivement, donc on les encourage très fort à écrire aussi leur propre musique dès la première année.
Eh ben, je propose qu'on vous écoute dans la lettre à Lise.
Ah, très bien. Thank you.
Alors, je pense que nos auditeurs auront reconnu la lettre à Élise, hein, Johan?
Oui, 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 en effet.
Oui, la lettre à Élise. Cet album, c'était Full Solo en 2021, je crois.
Tout à fait.
Tout à fait. Allez, bah, puisqu'on reste dans vos relations avec la musique classique, bah, vous avez joué aussi quelqu'un qui est important pour les amateurs de jazz, un compositeur, c'est George Gershwin.
Oui, tout à fait.
Bon, qui a donné beaucoup de standards au jazz, justement. Et puis, ben, je propose qu'on écoute un extrait de votre interprétation de la Rhapsody in Blue, c'était l'année dernière, avec le Sinfonia Varsovia.
Tout à fait, exactement. Allez,
la Rhapsody in Blue. La Rhapsody in Blue, alors bien sûr on ne peut pas tout écouter, oui. Johan.
En effet, mais excellente interprétation, c'est super. Bonjour Paul, on ne sait pas
bonjour.
Encore, on s'est parlé tout à l'heure, mais vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention par rapport à votre rapport peut-être au sacré. On ne peut pas s'empêcher, quand on écoute l'album Ways of Light, évidemment d'avoir l'idée de gospel en tête, c'est-à-dire de la musique sacrée par excellence. Et j'ai été très attentif sur votre album, notamment quand on entend votre version de Weinen Klagensorgen Sagen. Et je me pose une question. Comment est-ce que vous avez fait pour vous tenir à la fois à bonne distance de quelque chose qui soit vraiment gospel dans l'esthétique, tout en gardant le trait jazzistique? Est-ce que ça vous a demandé des efforts? Vous y étiez attentif ou c'était très naturel?
Merci pour cette question. Ce qui importe pour moi, alors c'est toujours très subjectif, hein, mais c'est le sens du goût, trouver la juste mesure. Et effectivement, c'est très délicat ce genre d'interprétation, en tout cas de comment revisiter des monstres sacrés et des et surtout des œuvres comme celle-là. Disons que je pense à l'épure. Évidemment, je travaille le texte, l'urtexte, donc le texte, et voir ensuite comment je peux me l'approprier et comment effectivement le colorer légèrement différemment. Mais il faut, en fait, c'est pas tant de travail sur l'instrument, mais c'est beaucoup de réflexion hors instrument et de voir comme vous l'avez dit, comment s'ajuster à ces œuvres-là.
Ça, c'est très intéressant parce que du coup, je trouve que c'est une sorte de petit paradoxe. Moi, ma sensibilité a particulièrement été éveillée dans votre version de Hear My Prayer, O Lord. Oui. Et pour le coup, alors que là, c'est clairement un appel du pied en anglais. voilà, à quelque chose de très gospelisant. Et on a une esthétique très, très blues. C'est ça qui est assez génial. Ce qui fait que vous ne tombez jamais finalement dans le panneau, j'ai envie de dire, quelque part.
Non, parce que effectivement, ce que j'essaie de... il faut que le contraste et la direction soient très marqués. Et elle est marquée parce qu'aussi, dans l'album, le titre précédent est vraiment Hear My Prayer, O Lord, oui. Version vraiment dans le texte de Purcell,
oui,
où le chœur joue vraiment la version, on va dire, canonique, si je puis dire,
oui.
sans le trio. Et l'idée, c'est ce qu'ils font aussi en concert, ce qu'on fait en concert, et l'idée, c'est de vraiment créer ce contraste. Et effectivement, là, j'ai décidé vraiment en marquant vraiment le coup de le colorer, si je puis dire, gospel, quoi, c'est-à-dire avec un certain groove, de certains accords, et même des harmonies, même bien post-gospel aussi, mais il y a le blues, en fait, et c'est un traitement par le blues, effectivement.
Oui, 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 c'est vraiment le titre, effectivement, qui est le plus blues, et puis, très intéressamment, c'est que toutes vos pièces qui fonctionnent par deux, à chaque fois, nous proposent quelque chose, finalement, qui sont un peu des piliers jazzistiques, parce que, effectivement, il y a une introduction donc à Weinen, Klagenzorgen, Zagen, c'est le cas aussi, du coup, pour Hear My Prayer, O Lord, et puis Ombre et Lumière, qui fonctionne en diptyque, si j'ai bien saisi.
Oui, c'est exactement ça. Et j'aime bien j'aime bien les sortes de séries ou de cycles. Bon, là, il se trouve que c'est effectivement des binômes.
Oui.
Mais j'aime bien le penser effectivement comme des suites.
D'accord. Et j'avais une autre question. Alors, j'ai eu le plaisir de suivre votre discographie depuis un moment déjà, donc j'étais très content d'être invité à cette interview. Et j'ai trouvé que sur cet album particulièrement, alors évidemment, je vais vous faire l'infamie de ne pas citer les nombreux prix que vous avez et la manière dont vous êtes acclamé pour vos interprétations, mais il y a quand même, moi j'ai trouvé, vous avez une manière très particulière de jouer sur cet album. C'est pour ça que je disais en introduction d'émission qu'il y avait, il y avait un côté chambre, c'est-à-dire que par rapport à l'habitude qu'on a de vous entendre improviser, à votre jeu finalement très, très jazz, sur celui-ci, on a quelque chose peut-être de plus ciselé, de plus précis. Vous vous ajustez par rapport, encore une fois, mais cette fois-ci dans la sonorité, par rapport au chœur. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ou par exemple, ça vous est apparu une fois que tout était enregistré?
Alors, on est forcément... on est forcément influencé par cette collaboration, et beaucoup de choses se jouent en studio pour cela. Comme faut préciser que 99% de la musique est écrite pour le chœur, et pour nous, le trio, il y a quand même des choses écrites, et il y a évidemment des plages d'improvisation. Donc ces plages-là improvisées, comme son nom l'indique, c'est vraiment selon l'inspiration du moment. Et alors, il se trouve que, pour aller dans votre sens, et je suis d'accord, c'est l'une des premières fois où j'enregistrais vraiment, où on enregistrait, donc tous dans la même pièce, mais c'est-à-dire le chœur nous embrassait, et le trio n'était pas en cabine, comme on peut éventuellement faire dans le jazz, etc.
Ah oui,
on était vraiment à touche-touche. Donc, il y avait une proximité, et ce qui nous fait jouer vraiment différemment, on s'écoute mutuellement différemment. Et donc je pense que tous ces paramètres ont fait que j'ai peut-être joué plus dans l'épure et essayer de m'ajuster, comme on l'a dit aussi, au répertoire. Et comme c'est très dense au niveau choral, dans ce que j'ai écrit et dans ce qu'ils interprètent, et il faut toujours trouver une sorte d'équilibre. Et puis j'ai à cœur de... plus les années passent, plus j'essaie de... Enfin, j'ai toujours été... très précautionneux quant à éviter tout bavardage dans la musique. Donc j'essaie d'être au plus proche de la justesse du propos. Et donc peut-être que dans cet album-là, c'est resserré, j'en dis peut-être un peu moins, et d'un côté, tant mieux. L'idée, c'est que ça soit concentré d'intensité. C'est ce que je sais.
D'accord. En tout cas, pour le témoignage de quelqu'un qui vous écoute depuis un moment, je dirais pas que c'est du bavardage, mais en tout cas, on est sur... plutôt quelque chose de sur la quintessence ou sur la substance de ce que vous savez faire. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup ressenti dans cet album-là par rapport aux autres. Ça, c'est évident.
Merci.
Alors, Johann, tu viens de parler de Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen de Jean-Sébastien Bach.
Absolument.
Allez, on l'écoute.
Oh.
Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen, extrait de cet album Wave of Light de Paul Lai avec les éléments.
Jazz aux éclats sur RCN.
Alors, Paul Lai, j'ai envie, on a évoqué ça tout à l'heure dans les différentes facettes et possibilités de jeu et d'interprétation, de vous emmener dans un autre contexte de, par exemple, en 2019, vous étiez aux côtés des frères Moutin, pour un album appelé Mythical River, album qui avait été fort remarqué au moment de sa parution, donc avec François Moutin à la contrebasse, Louis Moutin à la batterie, Paul Lai au piano, et puis Manu Kodja à la guitare et un saxophoniste, Christophe Moniaud. Vous vous souvenez de cet album, j'imagine?
Moi, très très bien, bien sûr. Je m'en souviens bien, et puis on a beaucoup tourné ensemble. Ce sont des amis et des musiciens exceptionnels, chacun avec leur expérience, leur grande expérience, et j'ai eu à cœur de jouer avec eux. J'ai beaucoup appris à leur côté, et avec une intensité particulière, notamment des deux frères qu'on leur connaît, un engagement sur chaque note, et c'est vrai que c'est à chaque fois un grand, ça a été un grand bonheur, effectivement.
Voilà, alors, pour compléter le tableau, puisqu'on en parle, eh bien, je propose qu'on écoute un extrait de cet album, Fight and Anger. Oui. We'll be right back. c'était en 2019 et vous étiez en compagnie des frères Motin. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, c'était un thème de, je pense que c'était un thème de Louis, ou non, je sais plus, le thème Louis ou François. Je pense que lorsqu'ils nous l'ont proposé, il y avait vraiment ce lien évident avec le quartet de Coltrane, ou en tout cas les harmonies de McCoy Tyner, etc. Enfin, non, plutôt cet esprit-là qu'on a eu au cœur de célébrer à notre manière.
Oui. Alors, il y a quelque chose dont je ne peux pas m'empêcher de vous parler. Au moment où nous parlons aujourd'hui, eh bien, nous sommes en pleine célébration du centenaire de la naissance de Miles Davis. Et puis surtout, nous venons d'apprendre le décès de Sonny Rollins à l'âge de 94 ans. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, vos réactions à cette nouvelle qui émeut forcément les amateurs de jazz, et bien au-delà d'ailleurs?
Oui, bien sûr. Il a bercé toute mon enfance, mon adolescence. J'ai appris pas mal de standards, pas mal de ses compositions qui sont évidemment des standards en eux-mêmes. Il avait un tel engagement dans chaque note. J'ai jamais eu l'occasion de l'entendre en vrai, en concert, mais c'est une source d'inspiration exceptionnelle que voilà. Il reste évidemment dans nos cœurs.
Et il nous laisse heureusement beaucoup, beaucoup de musique. Hein.
Oui, exactement.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va le répéter pour donner envie à nos auditeurs. Vous serez dans notre région, c'est pas si loin de Nancy, à Metz, le mercredi 10 juin, dans cette très très belle salle de l'Arsenal, vous la connaissez ?
Oui, je la connais, oui. Je la connais bien, j'ai joué 2-3 fois déjà. Et quel bonheur de revenir, effectivement. Donc on jouera Waves of Light, le programme de l'album.
Et nous réjouissons de venir vous y entendre, bien entendu. On va terminer cette émission en écoutant de nouveau un extrait de votre album Waves of Light, une de vos compositions encore, Flashing. Et nous allons bientôt être obligés de rendre l'antenne. Je suis désolé de couper votre musique, mais on peut toujours écouter la suite le mercredi 10 juin à l'Arsenal. Hein.
Oui.
Paul Lai, on a été très très content de parler avec vous pendant cette heure. Merci beaucoup.
C'est partagé.
Merci beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous au 10 juin à l'Arsenal.
Et oui.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Et ravi de cet échange. Et à très bientôt.
Merci et à bientôt.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Merci à Jean-Luc à la technique. Très très belle semaine à vous tous. Et la semaine prochaine à Jazz aux éclats, nous rendrons hommage à Sonny Rollins.